France Inter.
L'écrivaine et poétesse Marilyn Desbiol a façonné une œuvre à la croisée du roman et de la poésie, domaine par lequel elle a d'ailleurs fait son entrée en littérature. Son écriture musicale charrie des récits aussi singuliers que La Sèche, Anchise, Prix Femina, Le Petit Col des Loups, Priana de Noailles, Vous, sur sa relation au lecteur, Rupture, roman hanté par la figure du père, Le Neveu d'Anchise sur le descendant de l'apiculteur mélancolique déjà cité, Charbons Ardents, Prix Franz Hessel, sur la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83 qui eut lieu de Marseille à Paris, Il n'y aura pas de sang versé, ou encore La Graffe récompensée par le prix littéraire Le Monde. Elle s'est aussi adressée à un public plus jeune avec des livres comme Aïzane, Lampedusa et Violente, parus à l'École des loisirs. En 2024, elle a publié une annonce dans Libération. Écrivaine cherche des personnes se prénommant Rose pour l'écriture d'un roman. Le résultat est paru chez Sabine Vespizer sous le titre Rose la nuit, dans lequel une rose de fiction voulant garder asile à l'hôpital raconte différentes enfances et divers parcours, agrégeant en elle les 7 vraies roses que Marilyn Desbiol a rencontrées grâce à son annonce. Cela faisait longtemps que le prénom Rose la hantait, elle en a fait une ode aux femmes, aux fleurs, au courage, à la narration et aux arrangements avec la mémoire. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Marilyn Desbiol.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Bien écoutez, j'habite une maison un peu à l'écart, pas très loin de Nice. Et il y a une autre maison où mes voisins ne sont pas là depuis très longtemps et où ils sont farouches, ce qui est complètement respectable. Et il y a peu de temps, il y a une voix qui s'est élevée de cette maison, un chant gitan, un chant flamenco. C'était inouï, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que c'était pas une musique enregistrée, mais une voix qui venait d'un corps vivant, là, ici et maintenant, et c'était absolument magnifique. Le paysage en était tout changé.
Et c'était vos voisins ?
Et c'était mes voisins.
Qui chantent ?
Qui chantent, qui ont invité quelqu'un qui chantait, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas vus. Mais j'ai ça en mémoire et ça m'a vraiment enchantée.
Est-il vrai que votre expérience fondatrice de l'écriture s'est produite en terminale ? Vous aviez publié un recueil de poèmes que vous aviez offert à un professeur de philosophie. Il vous a demandé pourquoi vous écriviez. Vous avez dit pour me connaître. Et il vous a dit « Ah, vous en êtes encore là ?» Et ça vous a vraiment humilié.
Ça m'a vraiment humilié. Aujourd'hui que j'ai un peu plus de répondants, j'aurais pu lui dire que cette question était un peu bête. Mais en même temps, ça m'a humilié, mais je ne l'ai pas oublié. Et je pense que ça a résonné profondément en moi. En vérité, j'avais répondu ça un peu prise de court. Et je n'écris pas pour me connaître.
Mais pour connaître les autres.
Pour connaître les autres et pour aller voir ailleurs, quoi.
Ah oui, pour vous extraire de vous ?
Peut-être, oui. Pour aller voir ailleurs, si j'y suis, quand j'y suis pas,
vous y
c'est
êtes
encore mieux.
Ah oui, d'accord. Alors, vous avez commencé par la poésie, vous en lisiez beaucoup ?
J'en ai lu beaucoup à l'école.
À l'école, pas par goût personnel.
C'est-à-dire que moi, j'avais pas de livres chez moi. Pas tellement, quoi. On a donné des livres à ma mère, et moi, j'ai lu, quand j'étais petite, j'ai lu n'importe quoi. Ce qui est d'ailleurs une très bonne école. Donc, j'ai dû lire des choses qui n'étaient pas si intéressantes, et puis peut-être que oui. D'ailleurs, j'ai lu, à un âge où j'ai probablement rien compris, des livres de Nathalie Sarraute.
Ça vous a influencé ?
Énormément. Mais c'était complètement par hasard, vous voyez. J'ai lu aussi de la poésie et j'en ai écrit pour pasticher ce que j'ai lu. Mais j'ai toujours écrit de la prose en même temps.
Et alors justement, je crois qu'il y a eu une influence aussi du haïku, qui est cette forme très brève japonaise, et les récits plus longs.
Les deux pour moi ne sont pas antithétiques, quoi. Il y a un moment où je pense que ça s'est rejoint.
Et sur l'utilisation du jeu, le vôtre n'est pas du tout quelqu'un qui se regarde. Bon, on vient de le dire, vous regardez plutôt ailleurs si vous n'y êtes pas. Mais c'est vraiment la spectatrice qui veut partager ce qu'elle voit avec le lecteur.
Oui, il y a de ça. Et puis aussi, moi je suis un peu hantée par les voix que j'entends autour de moi, par les accents, par les tournures. Et ça contribue à mon écriture. Et donc, le faire partager au lecteur, mais aussi l'intégrer ces autres voix à mon écriture et lui donner du mouvement en somme.
Alors justement, là, vous avez prononcé le mot accent. Ça revient assez souvent chez vous, l'accent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous obsède autour de l'accent ?
Ah oui, alors ça, il y a peut-être un petit nœud, là. Parce que moi, quand j'étais petite, mes parents... Ma mère est italienne. Mon nom, Débiol, ben, c'est un nom haut-savoyard. Donc on est venu habiter dans l'arrière-pays niçois, où on était considérés comme des étrangers. Je dis, attention, je ne dis pas que j'ai été... une enfance horrible parce qu'on me traitait d'étrangère, pas du tout, mais il y avait quand même ça, j'étais étrangère, du coup j'ai absolument pas appris l'accent niçois comme vous l'entendez, et je ne voulais pas du tout non plus entendre ces petits mots des petites langues, du patois, et pourtant c'est rentré en moi. Et puis je me situais aussi du côté de l'école, du maître, du bien écrire, puis j'ai passé du temps à m'en sortir, à me sortir de ce carcan, au fond.
Vous avez réussi ?
Ah, je crois que je commence à réussir un peu.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Marilyn Debiol, vous avez eu le prix Fémina pour Anchise, dans lequel un octogénaire provençal et veuf attend la mort. Quel est votre rapport à la mort ? Bon, lui, il a une vraie raison, il est très triste, il est veuf.
Je crois quand même profondément que l'écriture, c'est un hommage aux morts, quand même. Enfin, moi, il me semble que ça fait partie de l'écriture. Pas du tout, comment dire, c'est pas du tout plombant, c'est pas du tout ça. Mais c'est le refus, au fond, le refus de la mort, finalement. Le refus et en même temps l'idée de garder des traces. Il y a les deux. Mais le refus d'en finir, oui, quand même, il y a ça.
Alors là, en parlant de ce veuf, je me frappe une idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé, c'est que dans Rose la Nuit, il y a plusieurs veuves.
Oui, c'est vrai. Mais Rose la Nuit, il y a eu des rencontres un peu magiques.
Bon, ça, on va en parler en détail.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des occurrences entre elles, entre ces voix, mais aussi entre mes livres.
Oui. Vous dites qu'ils entretiennent presque une conversation, vos livres, entre eux.
Oui, moi, alors, c'est aussi cette idée, ben, c'est aussi cette idée d'aller contre la mort, c'est que mes livres se tiennent la main. Je suis rusée, vous voyez.
Oui, je vois.
J'essaie de me ménager des petites sorties pour plus tard, des petits endroits que je n'ai pas encore bien explorés, que je vais explorer dans d'autres livres. Ça aussi, pour moi, alors, un livre, il y avait vous savez, on se souvient beaucoup des critiques. Et je crois que pour Anchise, un critique avait dit que c'est un livre qui n'était pas abouti. Il avait vachement raison.
Ah bon ?
Mais oui. Mais moi, je le revendique.
C'est pour ça que vous avez écrit une sorte de suite ?
Et aussi. Mais tous mes livres sont des suites, au fond. Je pense. Alors évidemment, celui-ci, de façon plus explicite, le neveu d'Anchise. Mais il y a ça. Le refus de l'aboutissement. Pour moi, l'aboutissement, c'est vraiment la mort, oui.
Ah, waouh, l'aboutissement, c'est vraiment la mort. C'est drôle, oui, parce que quand on pense à aboutissement, on pense à victoire.
Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Parce que, justement, est-ce qu'on est victorieux quand on écrit ? Est-ce qu'on ne se situe du côté de la victoire ? Est-ce qu'on ne se situe pas du côté plutôt du côté des vaincus, du côté des marges ?
Bah si, c'est plutôt des écrivains, oui.
La victoire ?
Non. Mais la mort, bon, pas tout de suite.
La mort, pas tout de suite, non. Surtout pas.
Anchise, il est dans l'Énéide.
Oui. Alors ça c'est fou aussi, parce que là, quand on parle des livres, on donne toujours l'impression qu'on maîtrise tout. Qu'on a écrit Anchise parce que ceci, cela. En fait, pas du tout. Moi, quand j'écris, je suis toujours dans le brouillard.
Et vous vous surprenez ?
C'est-à-dire, ça me surprend. Parce que j'avais oublié, j'ai été fan quand j'étais gamine de la mythologie grecque, hein. Ça je dois bien le dire, mais après on oublie tout, les détails et tout ça. Et en fait j'ai choisi ce nom d'Anchise sans me rappeler qu'en fait il avait eu ce grand amour avec la fille de Zeus, qu'il avait été puni en devenant boiteux, etc. Et tout ça... C'est dans le livre.
Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a une esthétique des boiteux dans votre littérature.
Oui, bah là aussi, on n'est pas du côté de la victoire.
Oh, ça dépend.
pas du côté de la performance. Oui, ça, j'y tiens. Et alors... puis boiteux, pardon, boiteux, c'est la danse aussi.
Oui, c'est vrai, c'est la danse, c'est le rythme.
Oui.
Il y a aussi des réminiscences des bucoliques de Virgile. Ça, vous en étiez consciente ou pas ?
Mais pas tellement. En plus, moi, souvent, quand je lis des livres, et même des livres que j'aime beaucoup, je les oublie. Je suis pas tellement capable de briller en société avec en faisant des citations et tout ça. Je pense que les livres que j'aime, je les incorpore. Et je suis sûre qu'ils sortent, qu'il y a des phrases entières qui doivent sortir dans mes livres, qui sont des pastiches, au fond, comme quand j'étais petite.
Si je pioche des lettres de bucolique et de hanchise, et que j'ajoute un M et un L, ça fait mélancolie. Quel est votre rapport à la mélancolie? C'est hyper tiré par les cheveux, mais j'ai pas trouvé mieux.
Ouais, j'aime bien les choses tirées par les cheveux. Même si, moi, je revendique aussi la joie, etc. Comment, enfin, quelle fadeur aussi, une joie sans mélancolie? Qu'est-ce que serait que cette chose, quoi? Oui, la mélancolie, elle est le fond, elle est quand même le fond de nos vies.
Et votre rapport à la nature, alors? Parce que... Voilà, je parlais des bucoliques, mais vous habitez dans l'arrière-pays niçois, vous adorez Giono, je crois.
Oui.
Qui, alors, quand on lit, c'est terrible, parce que dès qu'on habite en ville, on a l'impression c'est de la prostitution. C'est comme ça qu'il le décrit.
Oui, moi, j'irai pas jusque-là. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours habité dans ce qu'on appelle la campagne. C'est un rapport d'intimité que j'ai avec... avec les herbes hautes, avec les prés, avec les bois, oui, c'est un rapport d'intimité. Et en vérité, vous savez, on ne fait que reconnaître ce qu'on a déjà connu, même en ville d'ailleurs. Même en ville, on reconnaît des moments de nature. Moi, ça m'arrive plein de fois. Moi, c'est pour ça que je n'opposerai même pas tel Giono la ville et la campagne. Il y a des instants en ville, la Seine, par exemple, ou que sais-je, ou le ciel, qui me raccorde à ces moments-là.
C'est amusant parce que tout à l'heure, vous avez employé le mot « incorporer » et vous avez écrit « Le Goinfre », qui raconte l'histoire d'un type qui se remplit, qui baffre et qui boit et fuit jusqu'au sud de l'Italie. Et puis la Seine, reconstitution de divers repas. J'aimerais bien connaître votre rapport à l'appétit ou à l'engloutissement du monde ou des informations. L'incorporation, finalement.
Oui, la sèche aussi. La sèche, s'élaborer autour... Là aussi, il y avait une contrainte, c'était la recette de la sèche farcie, donc, qui n'était pas mangée. On était en train, la narratrice était en train de la cuisiner, donc il y a ce rapport-là. Ça fait partie aussi de l'oralité. Hein, les mots sortent de notre bouche qui incorporent la nourriture. Ça va avec, si j'ose dire, comme disent les enfants. Ça va avec, oui. Et puis ça fait tellement partie de nos vies. La Seine, ce sont des tables de banquet où non seulement on mange, mais on entend les autres. Ou quand on est enfant, on se cache sous les tables, il n'y a rien de plus délicieux d'ailleurs. Où on entend les adultes dire des bêtises, ils croient que les enfants ne les entendent plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est un moment romanesque formidable. On entend plein d'histoires.
Alors, on a parlé de l'accent. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rapport à l'Italie? Parce que je crois que vous avez appris l'italien petite pour pouvoir parler avec votre grand-mère.
Oui. Mes grands-parents maternels ont immigré en France dans les années 30. Je ne peux même pas me vanter que ce soit pour des raisons politiques. C'était pour des raisons économiques. Si tant est que ce ne soit pas des raisons politiques, ça. Mais bon, en tout cas, ma grand-mère, mes grands-parents ont renoncé à leur langue. Évidemment, ils n'ont pas renoncé à leur accent parce qu'ils l'avaient terriblement. Ils croyaient qu'ils parlaient très bien français, mais avec un terrible accent et avec des tournures de phrases terriblement italiennes. Mais en tout cas, ils ont abandonné leur langue. Ils ont même abandonné leur prénom. Donc, ma grand-mère s'appelait Amélie, mon grand-père Valère. Et ma mère ne sait pas parler italien. Alors, moi, a fortiori. Mais je l'ai appris à l'école. Et donc, je pense que j'ai mis plus de cœur. Et puis, ensuite, quand j'ai su un peu parler, quand j'ai su un peu dire quelques phrases en italien, j'écrivais des cartes postales à ma grand-mère qui ne me répondait jamais. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ma grand-mère ne savait pas écrire, ne savait ni lire ni écrire. Et moi, petite fille, l'école, qui misait là-dessus, je ne pouvais pas comprendre que ma grand-mère... pourtant si intelligente, qui me racontait tant d'histoires, ne savait ni lire ni écrire. Ça aussi, c'est une chose vers laquelle j'ai été.
Je suis allée quelquefois dans le village où sont nés mes grands-parents, déjà en Toscane, mais pas celle des tableaux. La Toscane irreprésentable, trop sombrement verte, la Toscane des forêts de châtaigniers dont on faisait nôtre la gravité, en mangeant la galette à la farine de châtaigne, un peu étouffe chrétien, d'une couleur légèrement terreuse. Ma grand-mère prétendait qu'elle remplaçait le chocolat, mais la galette me paraissait si sévère et le chocolat si désirable. Tout le charme de cette galette résidait peut-être dans ce qu'elle attisait et ne comblait pas.
2014, lecture au Théâtre de l'Odéon par Emmanuel Béard de votre texte, Marilyn Desbiol, Primo. C'est un spectacle dans lequel vous, vous lisiez un extrait de Ceux qui reviennent, dans lequel vous parlez notamment de votre famille et de la visite de leur tombe entre la Savoie et l'Italie. Je crois que vous avez un certain goût pour les cimetières. Tout à l'heure, vous avez dit « l'aboutissement, c'est la mort ». Et moi, j'aimerais bien vous interroger sur votre rapport à la foi et à la mort. Puis il y a aussi la guerre qui charrie votre œuvre.
Oui, ben... La guerre, moi je ne l'ai évidemment pas connue encore que... Enfin, je ne l'ai pas connue, mais des histoires de guerre, on m'en a beaucoup raconté. J'ai découvert des choses après la mort de mes grands-parents, qui ne parlaient jamais de ces choses-là. Donc, pour moi, ce ne sont pas des choses du passé, parce qu'on ne me les a pas racontées. Je suis allée vers elles, vous voyez.
Comme l'Italien, vous êtes allée
exactement.
Vers elles.
Et pour moi, c'est une chose que j'ai... Ce sont des choses que j'ai conquises, quasiment, pour lesquelles j'ai fait des enquêtes. Et donc, ce n'est pas des choses qui me ramènent au passé, c'est des choses que je vis, vraiment. Et que l'écriture me fait vivre au présent. Et j'ai oublié votre question.
C'est pas grave, parce que...
Les cimetières, mais bien sûr, parce que les cimetières, qu'est-ce qui reste dans le cimetière? Il reste des noms. Ça, les noms, c'est... Comment est-ce qu'un livre prend? C'est quand on trouve le nom des personnages, par exemple.
Ah ben ça, justement, on va y venir dans pas longtemps. Est-ce que vous croyez à la transmission intergénérationnelle des traumatismes? Je pense à Primo, par exemple, où vous partez sur les traces de votre grand-mère, notamment à Turin.
Alors, je sais pas. J'ai des difficultés à affirmer des choses comme ça, mais bon, force est de constater que Primo, c'est une histoire incroyable pour moi. Parce que je ne savais même pas que ma grand-mère avait perdu des enfants. C'était vague, il y avait des photos d'enfants, on se demandait qui c'était, etc. Elle en a perdu deux. Mais Primo, elle l'a perdu en allant en Italie pour accoucher, de son deuxième enfant. Elle y est allée avec Primo, qui est mort là-bas de la rougeole. Et elle ne savait pas qu'en fait, elle avait été victime de rumeurs qu'avaient colporté les fascistes, qu'on appelait les fascistes de l'extérieur, qui disait aux femmes italiennes d'aller accoucher en Italie, parce qu'en France, c'était dangereux, vous voyez, pour qu'elles aillent accoucher de bons petits Italiens. Mais ma grand-mère n'avait aucune idée qu'elle avait été victime de cette rumeur-là, de cette propagande. Et donc, ça, c'est fou aussi. Pour moi, j'ai découvert que ma grand-mère ignorait qu'elle faisait partie de la grande histoire, comme l'ignorent plein de gens, d'ailleurs, qui pensent qu'ils ne sont même pas dignes de la grande histoire.
C'est amusant qu'on parle d'histoire, parce que dans votre œuvre, il y a aussi une réflexion sur la mémoire. Et pour vous, elle semble collective. Parfois, quand je vous lis, j'ai l'impression d'entendre un chœur antique qui serait composé de plein de voix différentes. Et vous, vous avez recueilli plein de récits. Et en même temps, vous pensez que la mémoire n'est pas forcément propre. Parfois, elle fait partie d'un inconscient collectif.
Oui, vraiment, je le crois, et de plus en plus, en vérité. Ma grand-mère, c'est ma famille, mais en même temps, je ne la connaissais pas tant que ça, finalement. Donc, on peut l'étendre à d'autres gens que ceux qui sont de mon sang, paraît-il.
Tu vas où? Hein? Tu vas où? Hein? Hein? Ah, tu vas à l'école. Maintenant, faut appeler l'ambulance.
On entend l'humoriste Zouk dans son sketch La fourmi en 77. Marilyn Desbiol, vous en parlez dans Une femme drôle, parue en 2010, entre plusieurs souvenirs. Et alors, il y a une chose qui frappe, c'est que les femmes dans votre famille étaient drôles. Et vous avez mis du temps à vous en rendre compte.
Oui, c'est vrai. C'est grâce à Zouk, au fond, que je me rends compte que ma mère, notamment, faisait l'andouille.
Et votre père riait, et vous voilà. Dites que c'était encore plus rare.
Ça, c'est vrai, parce que je me suis rendu compte dans ma vie, et pas si longtemps, que les hommes n'aiment pas tellement que les femmes grimacent, se mettent en avant, fassent rire. Et finalement, je trouve que mon père était assez formidable d'être si admiratif de ma mère qui passait son temps à nous faire rire.
Est-ce que vous êtes du genre à plaisanter, souvent ?
Oh, j'espère bien.
Est-ce que vous êtes bon public ?
Oui. En tout cas, je suis bon public de Zouk.
Ils étaient partis 32 de Marseille, 32 jeunes de la énième génération, pour expliquer qu'immigrés et Français peuvent vivre ensemble. Au cours de leur longue marche, ils ont trouvé du renfort. Et en arrivant aujourd'hui à Paris, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'ils ont découvertes à leur côté. Ils venaient aussi pour dire que les crimes racistes, ça suffit.
On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
Ils avaient également aujourd'hui à leur côté plusieurs ministres. Mais ce qu'ils voulaient, surtout eux qui se disent apolitiques et qui redoutent d'être récupérés, c'est sensibiliser la foule parisienne. Dans la plupart des cas, ils y ont réussi, mais pas toujours.
La marche pour l'égalité et contre le racisme dans Soir 3, le 3 décembre 1983, par Chantal Bretz. Marilyn Desbiol, vous en parlez dans votre livre « Charbons ardents ». Vous avez signé plusieurs tribunes. Vous avez aussi parlé de l'Algérie décolonisée dans « C'est pourtant pas la guerre ». Vous avez parlé des ovalistes, ces petites mains des ateliers de moulinage lyonnais dans « Il n'y aura pas de sang versé ». Et vous écrivez souvent pour donner une voix aux invisibles. Mais attention, vous dites ceci. Parler pour, ce serait la plus grande obscénité. Mais parler avec, oui.
Oui, ça vraiment, j'y tiens. Je ne prétends pas avoir la main sur des gens qui, prétendument, ne savent pas parler. Parce que, alors, quand on les approche et quand on leur donne la parole, on comprend que c'est complètement faux. Et que les gens ont beaucoup de choses à dire, notamment quand ils parlent de leur métier. Ils ont les mots qu'il faut, les mots précis. Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Alors, au contraire, moi, je leur prends des choses. Je leur prends leurs mots.
Dans l'agrafe, qui parle d'une petite fille d'une famille de harkis, bon, je vais pas déflorer l'intrigue, mais en gros, l'écriture a à voir avec la reconstruction. Est-ce que vous y croyez à ça, de se reconstruire par l'écriture ?
Là encore, je marche toujours sur des œufs un peu. J'ai du mal à affirmer des choses comme ça. En tout cas, pour moi, l'écriture, quand même, ça c'est plutôt aller avec, là encore, notre obscurité, nos difficultés, voire même le chaos. Marcher avec, quoi. C'est déjà pas mal.
Et vous marchez avec le chaos ?
C'est une ambition, hein.
Ah oui, ça a une grande ambition.
J'oserais pas affirmer une chose pareille. Mais en tout cas, par exemple, ordonner le chaos, non, quand même, l'écriture ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas consoler non plus.
Jamais un texte ne vous a consolé ?
Un texte m'a rendue joyeuse, m'a fait rire. Ça, souvent, oui. Quand je trouve qu'un texte est beau, ça me fait rire. Alors, est-ce que ça me console ? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça me donne de l'allant, de l'énergie. Oui, ça, oui. Mais consoler, je suis pas sûre quand même.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
De Eminem. Alors, Marilyn Desbiol, il y en a qui crânent, hein, des écrivains, il y en a qui mettent Sénèque, Shakespeare et tout ça. Vous, vous mettez Eminem en exergue de Rose la Nuit qui vient de paraître chez Sabine Vespizer. Pourquoi cet extrait particulier ?
Il faut dire, voilà ce que je trouve, c'est le morceau qui l'a fait connaître, hein, où il s'invente un double en plus. Je trouve ça quand même assez formidable, quoi. Et puis, je trouve que même musicalement, c'est pas mal, Eminem.
Vous écoutez du rap ?
Je peux pas dire que j'en écoute énormément, mais bon, et pour être très honnête, c'est quand même ma fille qui m'a fait connaître Eminem.
D'accord. Dans Rose la Nuit, vous assumez la forme du conte, et ça commence par en majuscule, au commencement de Rose, comme quelque chose quasi biblique. C'est une variation autour de Rose, la couleur, la fleur. Vous avez écrit Des pétales dans la bouche en 2011. Alors d'abord, quel est votre rapport aux fleurs ? Pardon, cette question paraît absolument débile, mais... Je ne peux pas m'empêcher de voir des points, des coïncidences partout.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'avais oublié mes pétales dans la bouche, mais en effet, bon, ça doit faire partie aussi de cet appétit, j'allais dire, cette appétence que j'ai pour la campagne. Oui, j'ai un jardin autour de chez moi.
Et le prénom alors ? Parce que on ne sait pas toujours qui parle dans Rose la nuit. J'ai dit qu'il y avait une huitième Rose de fiction qui était en fait cette Rose que vous avez véritablement rencontrée. Mais tout au début, celle qui parle, c'est vous ?
Oui.
Donc c'est vous qui avez été hantée par une Marie-Rose, une bergère qui a dû s'exiler.
Oui, vraiment. Cette Marie-Rose était un personnage formidable que j'avais un peu choisi pour marraine. Personne ne m'avait dit qu'elle était ma marraine, mais moi je me l'étais dit. C'était un personnage à la fois qui pouvait être très sexy avec des robes courtes. Elle avait de très belles jambes, je me souviens, parce que j'étais à sa hauteur sans doute. Mais aussi, elle crapahutait dans la montagne parce qu'elle était bergère. Et elle injuriait souvent ses biques, ses chèvres. Et puis elle avait une voix aussi que j'ai dans l'oreille. Elle avait une voix rocailleuse.
Vous êtes sensible aux voix, décidément.
Oui, et cette voix-là, elle dit beaucoup du personnage. Comme vous savez, les voix, elles disent beaucoup de nous. Hein.
C'est vrai.
Cette voix-là, c'était tout sauf une rose suave. C'était une voix d'une femme qui avait vécu des choses pas drôles, sans doute.
D'ailleurs, ce livre, vous dites que vous l'avez pensé avec une dimension musicale et celle d'un septuor.
Eh bien, après coup, parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ces sept roses. Enfin, la contrainte que je me suis donnée, donc, c'est de, comme vous l'avez dit, après avoir passé une annonce, de recevoir les récits de ces sept roses. Il se trouve qu'elles sont en plus sept, c'est pas mal. Il n'y en avait pas une de plus, pas une de moins. Je n'ai pas fait un tri. Hein. Mon pari, c'était aussi que je devais faire quelque chose avec toutes les roses qui m'arrivaient, et tout leur récit, même si, admettons, le récit n'était pas intéressant, alors ça m'est jamais arrivé. Mais parce que aucun récit n'est inintéressant, finalement. Les gens ces femmes qui sont venues me raconter leur vie, c'est pas non plus des vies extraordinaires, mais il y a toujours quelque chose d'unique, en tout cas, d'unique.
Toutes des déracinées et des résistantes à leur manière.
Oui, alors ça c'est fou aussi.
Oui.
Et ça résonne vraiment, elles résonnent entre elles, et elles résonnent avec ce qui me... Alors en plus, il faut dire qu'elles ne m'avaient pas forcément lu, hein. Donc c'est magique.
Déjà, elle milite au groupe Prolétariat. Elle est internationaliste et marxiste. Elle assiste et participe aux premières luttes ouvrières dans une Pologne russe, qui naît à l'industrie et y découvre son adversaire traditionnel, le PPS, le Parti Polonais Socialiste, fortement teinté de nationalisme, qu'elle va combattre toute sa vie au nom du marxisme. En 1889, à 18 ans déjà poursuivie par la police, elle passe la frontière autrichienne dans une charrette à foin et va se fixer en Suisse, à Zurich, pour continuer ses études. Mais immédiatement, sa lutte politique reprend. Elle milite dans la deuxième internationale qui vient de naître, fonde le parti polonais marxiste, polémique avec Plekhanov, qui est à cette époque l'illustration du marxisme russe. Elle écrit ses premiers articles et commence à tisser ce réseau d'amis qui lui resteront, quoi qu'il arrive, fidèles.
1973, documentaire sur Rosa Luxembourg de Marcel Bluval. Dans Rose la nuit, Marine Desbiol, il est question aussi de Rosa Luxembourg, puisque c'est une variation autour de toutes les roses. Pas toutes celles qui existent, mais quand même pas mal. Et vous faites allusion à de magnifiques herbiers que Rosa Luxembourg a fait en prison.
Oui, ça c'est... vous parliez de fleurs. En effet, ce qui est extraordinaire de cette femme qui est en prison, c'est que des amis lui envoient des fleurs et qu'elle en constitue un herbier. Puis elle regarde aussi des fleurs qui poussent dans la cour de la prison. Enfin, c'est extraordinaire comme énergie vitale. Et d'ailleurs, moi, ça me rappelle maintenant, j'avais oublié, que je faisais des herbiers aussi quand j'étais petite. Et aussi, ce que j'adorais, c'est nommer ces fleurs, et puis avec la belle écriture, voilà.
En latin. Parce que rose, rosa, rosette, qui revient dans votre livre, ça fait très déclinaison de latin.
Mais oui, c'est vrai. Tout est lié.
Mais oui, bien sûr que tout est lié. Qu'est-ce que ça veut dire, calade?
Les petits mots qui me reviennent de plus en plus. Caler, ça veut dire descendre, tout simplement. Et une calade, c'est descendre rapidement, quoi. Cale, Alors, comme on dit aussi ailleurs, on débaroule. J'adore ce mot aussi.
Ah oui, débarouler, c'est drôle. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer à giorno?
Bah, c'est éclairer comme si c'était jour, comme si on était
une
en plein jour.
Nuit américaine.
Voilà.
Alors, il y a une rose qui se souvient d'avoir voulu impressionner des garçons en descendant dans un boyau sous terre, et le cauchemar la hante depuis. Est-ce qu'il y a un cauchemar qui vous hante?
Ah oui, longtemps, j'ai... Ben, là, c'est un récit autobiographique, ce tunnel.
Oui, parce qu'on ne sait jamais si c'est une rose que vous avez rencontrée, voilà, ou vous dans le livre.
Mais au fond, tout se mêle, quoi. Enfin, et ma propre biographie se dilue, d'ailleurs, dans ces roses. Et comme on disait au début, hein, quoi de mieux? Là, c'est encore mieux. Je ne vais pas voir ailleurs si j'y suis, mais j'existe dans les roses, je me dilue dans les roses, formidable. Et alors là, l'idée, oui, d'être enfermée dans un tunnel, pour moi, c'est vraiment l'horreur. Et pourtant, j'ai fait cette chose complètement idiote que de prétendre pouvoir traverser le tunnel. Et je ne savais pas du tout ce qu'il allait y avoir dedans. Il y avait des garçons qui se demandaient qui allait le faire. Et je me suis présentée. C'est assez stupide, je dois dire. Mais en effet, c'est quand même une chose qui me hante. L'idée d'être enfermée dans ce tunnel. De ne pas pouvoir en sortir, mais j'en suis sortie.
Alors, ça, je ne sais pas si c'est l'une des roses que vous avez rencontrées ou vous, mais en tout cas, il y a la rose dont la mère était attirée par la Chine, qui dit que, petite fille, elle faisait en sorte que tout glisse sur elle pour que les grandes personnes la chérissent. Comment est-ce qu'on peut faire ça?
Oui, ça, c'est bien une rose qui m'a raconté ça, qui s'appelle d'ailleurs, son vrai nom, c'est Rosette. C'est la plus âgée de mes roses, qui m'a raconté justement cette histoire de voyage fantasmé vers la Chine. Et cette rose me racontait, oui, à quel point elle essayait justement de plaire aux adultes en faisant en sorte de ne pas leur déplaire. C'est quand même là aussi, comme dilution du soi, c'est quand même fort.
Você não viu o carnaval, minha filha?
Não.
Ninguém resiste a essa doideira.
Orfeu Negro de Marcel Camus. Il en est question dans votre ouvrage Rose la nuit, Marilyn Debiol. Et à un moment, la rose qui fait allusion à ce film dit: je parle à ce qui n'a pas eu lieu, à ce qui ne s'est pas accompli. N'est-ce pas aussi l'un des pouvoirs de l'écriture?
Oui, c'est vrai. Oui, c'était émouvant quand cette rose m'a raconté ça, l'histoire d'un ratage, quoi. Son mari aurait dû, mais à cause de la guerre d'Algérie, là encore, bon, il n'a pas pu participer au tournage de ce film.
Qui a été récompensé de l'Oscar du meilleur film étranger et de plein d'autres.
Voilà, films. C'est horrible, enfin, comme histoire. Mais au fond, est-ce qu'elle ne m'a pas raconté aussi ça pour que ça ait lieu, d'une certaine manière?
Une récompense pour laquelle il a fallu de la patience.
Beaucoup de patience.
J'ai ressenti un peu quelque chose comme dans « Oh les beaux jours » de Beckett, comme une sorte de monologue, vous savez, pour combattre la mort dans votre livre.
Bah vous me flattez.
Parce que c'est quand même une rose qui est à l'hôpital, et puis pour ne pas quitter l'hôpital, elle raconte à une infirmière, d'ailleurs on ne sait jamais si ce sont des infirmières différentes ou toujours la même, elle lui raconte toujours une histoire, une histoire, une histoire, c'est toujours une histoire différente.
Oui, pour ne pas retourner à la rue, et en effet, pour ne pas en mourir, parce qu'on sait bien ce qui arrive aux gens quand ils sont dans la rue. Oui, il y a de ça, oui, bien sûr. Elle a l'air folle dingue, cette femme. Elle peut nous faire rire, mais la mort est au bout quand même. You feel my anger radiate, my brutality disseminate. Empty around me, but now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate, my brutality.
feels empty around me. But now, now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Dragging myself down so deep and low, so red. But I know from the radio the world's changed all around, and I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire.
Je vous demandais une découverte, Marilyn Débiol. Vous avez choisi la ville de Saint-Étienne, surnommée Saint-Étienne, et notamment la salle de concert Le Fil, où, avec votre camarade Sabine Vespizer, ici présente, vous avez assisté, il n'y a pas si longtemps, à un concert de Jeanne Haddad. Et là, c'est votre choix musical, c'est Radiate de Jeanne Haddad. Donc, je voudrais que vous nous parliez de ce morceau, et surtout de Saint-Étienne.
Eh bien oui, parce que les deux sont liés. Radiate irradie... Pour moi, à commencer par irradier la ville de Saint-Étienne, dont j'arrive d'ailleurs. J'y étais encore encore ce matin. J'aime beaucoup cette ville, tout simplement. Parce que c'est une ville où on entend des voix. Les gens vous parlent dans la rue. Ça devient extrêmement rare.
Oui.
Et en plus, ils vous parlent dans la rue avec un accent que j'aime vraiment beaucoup. Et avec des petits mots, avec des mots... d'une petite langue, d'un patois qui s'appelle à Saint-Étienne le Gaga.
Et ça, c'est irrésistible, Gaga.
C'est irrésistible, oui. et donc, voilà, il y a ces voix, cette culture.
Le musée d'art moderne.
Il y a cette culture de Saint-Étienne. Et puis, il y a la grande culture aussi à Saint-Étienne, qu'on connaît bien peu. Par exemple, le musée de Saint-Étienne, le musée d'art contemporain et d'art moderne, c'est la collection la plus grande après Beaubourg. C'est un musée formidable. Vraiment, avec le musée lui-même est constitué de carreaux de céramique qui rappellent le passé minier de la ville. C'est une ville, je trouve, sérieuse, qui a été bien trahie par son maire récemment, mais en dehors de ça, c'est une ville sérieuse. C'est une ville où il y a un vrai cinéma d'art et d'essai, il y a des librairies indépendantes formidables, il y a aussi des choses qui ne sont pas institutionnelles, comme par exemple un festival de courts-métrages qui a lieu à la fin avril, qui
nouveau
est non
rêve.
Compétitif. Nouveau rêve, formidable. Il y a aussi le Grand Luxe. J'adore cet endroit qui est un hangar, on dirait, alors qui est aménagé comme un club berlinois où on peut voir des films rares et des films souvent sur pellicule. Enfin, des choses comme ça. Il y a plein d'associations aussi. Enfin, je trouve que cette ville... c'est pas qu'elle mérite d'être connue, parce qu'au fond, les gens sont là, ils sont très bien, ils n'ont pas besoin qu'on vienne les visiter pour les soutenir. Mais en tout cas, c'est une ville, moi je trouve, qui me fait souvent battre le cœur, oui.
Vous lui avez rendu hommage dans Le Beau Temps, Marilyn Desbiol, c'est Maurice Jaubert, et c'est sa musique pour le film L'Atalante de Jean Vigo, sorti en 1934. Comme vous êtes très sensible à la musicalité, à la poésie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de Maurice Jaubert, qui est assez méconnu ?
C'est vrai. Alors, formidable transition que vous faites, parce que dans ce film joue Jean d'Asté, qui est un personnage stéphanois majeur, puisque... c'est dingue. Puisque il y a inventé ce qu'on a, enfin la comédie, qu'il y a fait du théâtre, qu'il est allé par les villages jouer la comédie. Bon, mais enfin moi cette rencontre que j'ai faite de Maurice Jaubert a été extraordinaire parce qu'en effet, comme vous dites, il est sinon inconnu, du moins méconnu, mais il a été carrément l'inventeur de la musique de cinéma, la musique de scène, comme on disait alors. Il est niçois. Il est né en 1900, il est mort en 40 sur le front. Et j'ai vécu quasi une histoire d'amour avec lui, parce qu'il est très beau aussi. Là aussi, c'était pas une manière de parler du passé. C'est que si le livre s'appelle Le Beau Temps, c'est que nous partageons, Maurice Jaubert et moi, le beau temps de Nice. C'est le temps ici et maintenant, là encore une fois. Et grâce à ça, j'ai eu le sentiment, en tout cas, de cheminer à côté de lui. Et puis, alors, j'ai découvert plein de choses dans les archives. C'est extraordinaire. Je pourrais y être encore. Et j'ai découvert surtout ces lettres qui n'avaient jamais été ouvertes depuis si longtemps. Des lettres extraordinaires où, là aussi, on entendait sa voix, mais écrite.
Vous entendez vraiment tout. Alors, j'aurais aimé vous interroger sur la peinture parce qu'elle charrie aussi toute votre œuvre et vous avez notamment écrit « Valoton est inadmissible ». Moi, j'adore Valoton. Donc. Voilà, et puis on vous a offert une histoire générale de la peinture au collège. Bon, y a tant de choses à raconter, mais il nous reste quelques secondes et je voudrais savoir comment vous vous êtes retrouvée avec un moulin à poivre offert par l'écrivain et le critique d'art John Berger.
Parce que j'ai eu la chance, vraiment l'honneur, je dirais, de rencontrer John Berger. Et un jour, j'ai lu un texte de lui, devant lui, enfin devant lui et devant du public, mais il était là, il était question de sa mère, parce que John Berger, ça a été un vieux marxiste, etc., mais complètement métaphysique, où les morts et les vivants, là encore, cohabitent, et donc il rencontre sa mère qui est déjà morte, mais il la rencontre à Lisbonne, voilà. Je lisais ce livre, et puis je le vois disparaître, je me suis dit, oh mince, il n'a pas aimé, qu'est-ce que j'ai... Enfin bon, voilà. Et puis il est revenu, quelques minutes plus tard, il avait été acheter un moulin à poivre, le même que celui dont sa mère s'était servie. Je peux vous dire que j'ai toujours, bien sûr, ce moulin à poivre. Ou on peut dire une anecdote. À son enterrement, par exemple, il y avait tout le village de Quincy où il habitait en Haute-Savoie. Et il y avait aussi Tilda Swinton qui a fait un petit film avec lui. Et parce qu'il a été tellement important pour les Anglais quand il a fait une émission à la BBC sur l'art. Et Tilda Swinton, elle a été bercée par ses émissions de John Berger sur les œuvres d'art. Qui était justement extrêmement féministe déjà, extrêmement engagé, enfin tout quoi. John Berger.
Merci beaucoup Marilyn Desbiol.
Mais merci beaucoup à vous.
Votre roman Rose la nuit est paru chez Sabine Vespizer et a signalé aussi la réédition le 7 janvier dernier de votre roman L'Agrafe chez J'ai lu. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Ludovic Asselot.